Pour moi aussi, ça m'a rappelé en 1976, quand j'ai entendu parler de l'Évangile, pour la toute première fois, un jeune homme de 18 ans qui est allé juste travailler pendant l'été sur une ferme de tabac, et que là, quelqu'un me parle de Dieu, m'introduit à lire la Bible que je n'avais jamais lue, m'encourage à lire les Évangiles pour débuter, Matthieu, naturellement, le premier livre du Nouveau Testament. Et là, j'arrive au chapitre 24, et de quoi est-ce que Jésus parle dans Matthieu 24? Des signes qui vont précéder son retour. Moi, j'avais jamais entendu parler que Jésus allait revenir un jour, étant donné que mon arrière-plan catholique, donc on parlait pas de ça. J'avais jamais lu la Bible non plus. Mais là, en lisant Matthieu 24, ce qui m'a intrigué, c'est l'actualité de la Bible. Et ça, c'est venu me chercher. Parce que pour moi, la Bible, c'est un livre, oui, respectueux, religieux. Bon, sûrement, il y a quelque chose d'important là-dedans. Mais pas plus que ça, là. Et là, de voir que la Bible était actuelle. Parce que dans Matthieu 24, Jésus dit, qu'il va y avoir des guerres et des bruits de guerre. Une nation va s'élever contre une autre nation, un royaume comme un autre royaume, il va y avoir des famines, il va y avoir des tremblements de terre. Et là, il continue comme ça, mais il dit, ça sera pas encore la fin. Là, il va arriver autre chose. Et là, il va même dire, la bonne nouvelle va être prêchée à travers le monde entier. Et là, il dit, alors viendra la fin. Et pour moi, quand j'allais manger sur l'heure du midi, le souper, on mangeait chez le fermier là, qui nous accueillait, on travaillait pour lui. Puis là, ça parlait régulièrement de phénomènes comme ça à travers le monde. Où là, on aurait dit que jour après jour, il y avait soit une famine, une guerre, un tremblement de terre, des choses semblables. Et là, je me disais, voyons donc, ça parle de ça, il y a 2000 ans dans la Bible. Jésus en a parlé. Et puis là, ça arrive. Et c'est venu me chercher. Alors, prions justement pour que, à travers des circonstances aussi dramatiques qu'est-ce qui se passe présentement, et même quelqu'un m'a demandé cette semaine, mais c'est-tu la fin du monde? Ça veut-tu dire qu'on s'en va vers ça, là? Ben, j'ai dit, c'est certainement dans les signes que Jésus a parlé qu'il allait avoir des choses comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu cherche des hommes, des femmes, des enfants, et qu'à travers des circonstances comme celle-là, bien, les gens puissent se tourner vers Dieu et crier à Dieu. Et vous savez, dans deux semaines, pas la semaine prochaine, mais l'autre après, on va débuter justement la série sur Libération 21, qui est sur le cœur de Dieu, la vraie nature de Dieu. Puis ça va être un temps de rassemblement, un temps où on veut se tourner vers Dieu d'une façon encore plus intense, on pourrait dire ça comme ça, que qu'est-ce qu'on fait déjà, qui est super, là, puis on est toujours en train de vouloir chercher la face de Dieu. Mais avec Libération 21, on va avoir l'occasion justement de se mobiliser les uns les autres, et soit à travers tous nos groupes maison sur semaine. Plusieurs ont déjà commencé d'ailleurs l'étude du livre « Doux et humble de cœur » qu'on va se concentrer encore pendant toute cette période-là de Libération 21, où on veut se tourner vers Dieu, chercher la face de Dieu. On veut vraiment intercéder, prier, autant pour des choses qu'on veut que Dieu fasse dans nos propres vies, nos enfants, nos familles, autant famille immédiate que famille élargie, pour que Dieu se manifeste, touche des vies, touche des cœurs, attire à lui, qu'il y ait des libérations, des victoires pour la gloire de Dieu. Voyez, pour que vraiment Dieu soit de plus en plus honoré et célébré. Et justement, encore là, pas dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est le 6, je pense, c'est ça? C'est là où l'école dimanche va commencer. Alors, ça va être la suite du message de ce matin, mais ensuite, c'est le 13 mars, c'est le début de Libération 21. Et le soir, donc on va avoir une prédication le matin sur la thématique, mais aussi le soir, il va y avoir une belle célébration. Et là, ça va être une belle occasion de venir en grand nombre, où là, on veut venir chanter ensemble, on veut louer Dieu. Vous savez, quand il y a des prières, des louanges, un peu comme quand Paul et Silas étaient en prison, puis que là, les murs ont branlé, puis les fondations ont tombé, puis là, les gens se sont comme dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, ça dit que Pierre et Silas, eux autres, ils chantaient, ils louaient Dieu, ils priaient. Puis là, il y a eu toute une manifestation de Dieu. Donc, la prière, nos prières, la prière des saints, comme la parole de Dieu l'appelle, a vraiment un impact. Et là, venons, prions, puis entre autres pour ce qui se passe justement là-bas en Ukraine, et que Dieu se manifeste, se glorifie à travers de telles circonstances qu'on est tous bouche bée, et troublés, et attristés là, par ces choses-là. Alors, pour ce matin, on va, et en préparation justement pour Libération 21, on va faire la suite dans Romains 8, et là, ici, c'est pas allumé. Y a-t-il moyen d'allumer ça? Je sais pas si... Ah, tiens, je viens de peser sur le piton. C'est bon signe, c'est à peu près ma connaissance que j'ai là de l'informatique. Peser ses pitons pour allumer les affaires. Alors, la vraie nature, et là, vous voyez, la nature de quoi? Là, ça dit du jugement de Dieu. Parce que là, tu vois, il y a comme on se créera en justice avec tout ce qu'il y a là. C'est des symboles de justice où là, on voit la loi, on voit une balance, un marteau avec quelque chose qu'on frappe dessus. Ça serait la vraie nature de quoi? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Avez-vous vu sur le site web de l'Église, dans le bulletin? C'était écrit le titre. C'est la vraie nature. Puis là, je vais prendre mon petit... voilà. La vraie nature du christianisme. Et là, Romains 8. Donc, on a vu Romains 7, une partie en 2021. Et le dernier message était en janvier de cette année. Et c'était sur le combat de toute une vie, où là, Paul parle de cette réalité qui arrive que lorsque on passe du régime de la loi au régime de la grâce, et que là, on est dans cette nouvelle famille, dans cette nouvelle réalité spirituelle, bien là, il y a toute une bataille qui se passe dans nos cœurs. Et là, Romains 8, bien, Paul ici, il va continuer sur son argumentation. Puis là, ce qu'il est en train de montrer, c'est un peu comme le contexte dans lequel Romains 7 s'installe et dans ce qu'il est en train de dire dans Romains 7, et même surtout, parce que c'est la plus grande partie de Romains 7, c'est ce combat, là, cette rage qu'il y a dans nous entre ce que la chair veut encore, mais ce que l'esprit, lui, par contre, veut m'emmener dans une nouvelle direction. Et en harmonie avec Dieu, en harmonie avec sa volonté, à faire ce qui plaît à Dieu, contrairement à ce que ma chair, elle, est en combat constant contre qui est Dieu et ce qu'il veut pour moi. Et là, il y a ce combat-là entre ces deux réalités-là, la chair et l'esprit. Les deux sont présents dans une personne qui a vraiment accepté Christ comme son sauveur personnel. Et là, ici, dans l'aspect de la vraie nature du christianisme, c'est de revenir à qu'est-ce que c'est essentiellement le christianisme. Et quand on pense à ça, à la foi chrétienne, ou certains diraient même la religion chrétienne, ça fait référence à plusieurs choses. Et là, on pourrait décrire ça comme étant soit des activités, soit des cultes religieux, des prières, des disciplines spirituelles, des interdits, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et là, ça peut commencer à jouer dans toute cette sphère-là de qu'est-ce que c'est. Comme pour moi, avant, la religion chrétienne, ben c'était ça, c'était une panoplie de choses qu'il fallait faire attention, avec le risque en plus que le jugement de Dieu allait venir sur moi, et dépendamment du bien ou du mal que j'avais fait, lequel, comme vous voyez ici la balance, là, lequel des deux aurait préséance sur l'autre. Si j'ai fait plus de bien, ben là, ça penche de ce bord-là, c'est tout ça, oui, donc c'est plus pesant. Tandis que si j'ai fait plus de mal, ben là, ça penche de l'autre bord. Puis là, dépendamment comment je vais me présenter devant Dieu, si ça penche du mauvais bord, ben là, je suis mal pris. Si ça penche du bon bord, ben là, je vais peut-être être correct. Mais aucune certitude. Juste la crainte. Et un peu d'appréhension, puis en même temps d'insouciance, étant donné que j'étais quand même jeune quand, entre autres, j'ai entendu parler de l'Évangile, mais j'avais quand même ces notions-là parce que j'avais été élevé dans la religion catholique, le catéchisme, j'avais même été servant de messe. Donc, il y avait des petites affaires comme ça, mais pour moi, c'était une religion essentiellement. Le christianisme, c'était une religion de bonnes œuvres, que si on pratique ces bonnes œuvres-là, si on est dans le bon sens, du bon bord, ben on devrait être pas si pire. Mais comme je vous dis, là, c'était vraiment, ça dépendait de moi. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais de plus en plus, ça circule, entre autres sur Internet, et on entend toutes sortes de choses là-dessus. J'ai même récemment entendu un genre de conférence qui a été donnée sur cette réalité-là qui commence de plus en plus à ressortir un peu partout, en Amérique du Nord particulièrement, et en Europe aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de la déconstruction. Ça vous dit tout de quoi? Levez la main juste pour avoir une idée s'il y en a qui savent c'est quoi la déconstruction. Là, je parle pas de la construction dans le monde de la construction, là. Donc, la déconstruction dans ce sens-là, là. Mais de la déconstruction au niveau de la foi. Ça vous dit rien? Ah, ben, ça veut dire que vous allez en entendre parler éventuellement, c'est quasiment sûr. Parce que ça prend de l'ampleur de plus en plus. Il y a des sites là-dessus, il y a des gens. Même dans cette idée de déconstruction, là, il y a même des gens qui s'identifient comme des ex-évangéliques. Donc, ça fait penser à quoi? Un ex-évangélique? Comme un ex-mari, une ex-épouse? Ben, autrement dit, des gens qui sont plus évangéliques. La déconstruction, en fait, c'est comme de la démolition de la foi chrétienne. C'est exactement ça. Des gens, et qui là, il y en a qui ont vécu pendant toute leur vie pratiquement dans le milieu chrétien. Et là, finalement, là, ils en ont ras-le-bol. Puis là, ils décident de tout déjecter, de tout remettre en question. Et là, vous dites, là, tout y passe. Jusqu'à un point qu'à un moment donné, il y en a un qui disait, que je connais même personnellement, et qui a grandi dans un foyer chrétien et tout ça, et qui a même fait des choses dans, disons, l'effort évangélique au Québec. Il a même dit ceci, il dit, « Je suis même plus sûr si le mal existe. » Puis là, il dit, « À un moment donné, j'étais en train de jouer avec ma fille, puis là, je me suis aperçu que je lui cachais la lumière. » Puis là, elle était dans l'ombre. Fait que là, ça m'a fait réaliser que moi, je veux pas que ma fille soit dans l'ombre, je veux qu'elle soit dans la lumière. Mais pour lui, ça voulait dire être en dehors de la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, c'était une série d'interdictions, de peurs, de parler du péché, de parler du mal, de mettre des choses comme ça sur les épaules des gens qui sont pas capables de supporter. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça, lui, son expérience de la foi chrétienne. Et là, c'est là que ça me fait penser au titre, parce qu'aussi, on va voir la vraie nature de Dieu, donc on va revenir à l'essentiel, à qui fondamentalement Dieu est, quel est son cœur. Et là, le livre, entre autres, que l'on a pour nous aider, va servir à ça. Mais que effectivement, il y a aussi cette même aspect-là de la foi chrétienne, du christianisme. C'est quoi la vraie nature du christianisme? C'est-tu une espèce de livre avec plein de règles, de choses à faire et ne pas faire? Est-ce que c'est ça, le cœur même, la vraie nature du christianisme, sa nature profonde? C'est quoi le christianisme? C'est quoi vraiment la foi chrétienne? Et là, naturellement, Paul va nous aider. Et je vais lire Romains 8, 1 à 4. Il commence son chapitre 8 avec ce verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et là, il a étalé, comme je vous dis, au chapitre 7, cette réalité-là de l'emprise de la chair versus l'emprise de l'esprit. Mais il commence en affirmant qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Donc ici, il parle de deux sortes de lois, celle de l'esprit et celle du péché et de la mort. Et on va voir tantôt à quoi il fait référence. « Car chose, verset 3, impossible à la loi, et là on l'a vu amplement au chapitre 7, parce que la chair la rendait sans force, donc c'est pas la loi le problème, mais quand tu emmènes la chair avec la loi devient un problème, mais en soi la loi, elle est pas le problème, elle est bonne, elle est juste, elle est spirituelle, mais la chair rendait la loi sans force, Dieu en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, là, ce qu'il a fait, il a réglé le problème. En condamnant le péché dans la chair. Donc, à travers l'œuvre de Jésus, le fait qu'il est devenu homme, qu'il s'est fait chair, donc, et il a fait ce qu'il a fait, il a accompli la volonté de Dieu, il est allé jusqu'à la croix, donc lui a mis en pratique la loi parfaitement, et là, sur la croix, il est devenu le sacrifice pour chacun de nous, pour nos péchés, et là, ainsi, Dieu pouvait régler le problème du péché. Et là, voyez, aucune condamnation, verset 3, il a condamné le péché dans la chair. Donc, de là, le marteau et la justice qui dit coupable ou non coupable. Alors, Dieu dit, en vous regardant, en me regardant, vous êtes soit coupable ou non coupable. C'est l'un ou l'autre. Il y a un des deux verdicts qui nous concerne. On va être soit déclaré coupable ou non coupable. Maintenant, en nous-mêmes, on est tous coupables. En Jésus, là, on est tous non coupables. Donc, la clé, c'est quoi? C'est de plus être en nous-mêmes, mais d'être en Jésus. Et c'est ça qui va, justement, essayer de faire ressortir. Et le verset 4, « Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Ça, c'est un peu surprenant comme déclaration. Moi, je me serais attendu à quelque chose comme ceci. Pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en Christ, qui, lui, a marché et a obéi à Dieu, puis est allé jusqu'à la croix. Non, il va plus loin que ça. Non seulement, on le sait que la justice de Dieu est accomplie en Christ. Lui, il l'a accompli parfaitement, donc il l'a mis en pratique. Mais ici, il dit même que en nous, la justice prescrite par la loi va être accomplie. Parce qu'on va marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, nous aussi, Dieu dit qu'on va pouvoir marcher en conformité avec la loi. Donc là, naturellement, c'est l'œuvre de Dieu. Naturellement, c'est Christ qui va faire ça. Et c'est pour ça que là, si j'essayais de définir la vraie nature du christianisme en un seul mot, ça serait quoi? Un mot. Pas deux. Un. Un mot. Une personne. Jésus. OK? Si j'essaie de définir la vraie nature du christianisme, ça se résume à une personne. Enlever cette personne-là du portrait et il n'y a plus de christianisme. Ça s'appelle le christianisme. Hein? C'est à la suite de Christ. C'est Christ qui est au centre de ça. Donc, Jésus, c'est la personne principale. Et là, ce qu'il est et ce qu'il a fait devient la chose la plus importante, le focus. C'est pour ça que Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit quoi? « Moi, quand je suis allé vous visiter, ce que j'ai voulu vous présenter, c'est une seule chose. En fait, une seule personne, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » De vous parler, et même si en 1 Corinthiens 15, on sait, il parle de la résurrection, mais ce qu'il voulait faire référence, c'est ce que Christ a accompli. Qui il est? Pourquoi il est venu? C'est quoi l'importance de le connaître? Qu'est-ce qui change, lui, avec qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on vit. Et là, Jésus, c'était la personne principale. Si je le mettais en une seule phrase, ou je pourrais vous dire un seul verset, ou en tout cas basé sur ce verset-là, ça serait Jean 3,16. Vous voyez, Jean 3,16 nous résume la vraie nature du christianisme. Et ce que Jean 3,16 nous dit naturellement, c'est que la vraie nature du christianisme est que Dieu, qui est le seul créateur et l'être suprême de l'univers, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Paul dit dans Romains, oui, les hommes ont tous péché contre Dieu et sont tous privés de sa gloire puisqu'ils ont tous refusé de l'honorer comme créateur. Il prend le temps de bien définir ça pour démontrer son argument. Alors, ils ont refusé de l'honorer en tant que créateur puis être suprême sur leur vie. Et là, se sont allés à toutes sortes de choix et de péchés qui les ont déshonorés et qui ont déshonoré Dieu. Mais non, Paul dit non, ça, malgré ça, ça n'a pas empêché Dieu d'envoyer son Fils unique mourir sur une croix d'une mort atroce et injuste. Donc là, on voit l'amour de Dieu dans la direction complètement opposée qui allait déshonorer Dieu. Mais Dieu, au lieu de simplement les rejeter et de dire « débrouillez-vous », il a dit « non, moi, je vais poursuivre les pécheurs et je vais faire tout ce qui est nécessaire pour que le péché puisse être pardonné. » Et donc, Jésus est venu. Alors oui, le but de Dieu à travers son Fils, et tout ce qu'il a fait, c'était de nous réconcilier avec lui, d'apaiser sa colère envers nous et de retirer la condamnation qui pesait sur nous ou sur nos épaules, mais de le faire grâce à l'œuvre de Christ. Tout le reste en découle, sinon c'est de la religion qui est morte. Et là, les sept premiers chapitres de Romains mettent en lumière plusieurs vérités qui nous conduisent à celle qui est mentionnée ici au chapitre 8. Paul commence par montrer que Dieu est le Créateur et le Maître souverain de tout l'univers. L'homme ne l'a pas adoré, honoré comme Dieu, mais il a plutôt préféré vénérer la création et poursuivre ses propres intérêts personnels, ce qui, oui, a provoqué un conflit, une séparation entre Dieu qui est saint et l'homme qui est pécheur. Mais l'homme, par ses mauvais choix, s'est placé sous la colère de Dieu et l'attente d'un terrible jugement. Mais là, heureusement, Dieu a pourvu à la solution en envoyant son Fils. Et ainsi, la colère de Dieu est tombée non pas sur nous, mais tombée sur lui. Et tout ça, c'est grâce à Jésus-Christ. Et là, au chapitre, le cœur du christianisme, en déclarant au verset 1, il y a donc maintenant, en tenant compte de tout ce que le chapitre 1 et chapitre 7 montraient, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut le dire tout haut, là, aucune condamnation. Allez-y, aucune condamnation. Aucune condamnation. Si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Maintenant, il y a deux questions qu'on pourrait se poser en lisant ce verset. La première, c'est que veut dire Paul par « maintenant, aucune condamnation ». Alors, et la deuxième, que veut dire Paul par « ceux qui sont en Jésus-Christ ». Alors, premièrement, pour « maintenant, aucune condamnation », il y a deux connotations possibles et les deux s'appliquent ici avec qu'est-ce que Paul essaie de communiquer. La première, c'est de dire qu'enfin, tout est là, tout est en place, tout a été fait et donc je peux recevoir le cadeau de Dieu qu'il veut m'offrir. Et ça, c'est Jean 3,16 justement qui nous montre ce cadeau-là qui est la vie éternelle. Tout est accompli. Prenez un peu l'exemple, là, juste pour essayer de mettre ça en perspective. Un grand-père envoie un colis à sa petite-fille et lui dit, « Grand-papa t'envoie ce colis pour ton anniversaire, ton cadeau. C'est ton cadeau et tu pourras l'ouvrir seulement le jour même de ton anniversaire, pas avant. » Et là, chaque jour, la petite-fille va voir sa mère puis elle dit, « Est-ce aujourd'hui? » Est-ce maintenant? Puis-je ouvrir le cadeau? Maintenant? Et là, la maman répond avec beaucoup de tendresse. Non, ma chérie, pas maintenant, mais seulement le jour de ton anniversaire. Et là, quand le jour de l'anniversaire arrive enfin, elle dit avec enthousiasme et beaucoup de fébrilité dans sa voix, naturellement, « Enfin, c'est maintenant que je peux ouvrir le cadeau. » C'est de ce « maintenant » dont Paul parle ici au verset 1. Le « maintenant » qui vient seulement après avoir longtemps attendu et soupiré après ce cadeau-là. Et là, il faut se rappeler ici que Paul est un Juif. Beaucoup de ceux à qui il adresse son épître sont des Juifs. Et pendant des années, il n'avait aucune certitude à savoir est-ce que on est prêt à rencontrer Dieu. Est-ce que on peut être certain que Dieu va être en paix avec nous et que nous, on va être en paix avec Dieu. Et là, pour Paul, il dit, enfin, c'est maintenant. Et ça part avec ça. Le christianisme, autrement dit, il part avec cette assurance, cette certitude, cette déclaration qu'il n'y a aucune condamnation possible pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La deuxième connotation fait référence à ce qui nous est donné d'avance en gage et qui viendra plus tard en totalité. Et par exemple, Éphésiens 1, 14 qui dit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Donc, c'est comme un premier versement et une garantie que le reste va suivre aussi. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous rappelle que Dieu, d'avance, nous accorde le salut, la vie éternelle. Si on vient à l'exemple du grand-père, le même grand-père va donner un cadeau à sa petite-fille avec la directive de l'ouvrir que au jour de son anniversaire. Maintenant, il crie à son unique fils et lui envoie un chèque de 50 000 $ en lui disant, 50 000, quand même intéressant, « Fiston, tu sais qu'un jour tu vas hériter de toute la succession familiale. Mais ce que je sais, c'est que vos besoins présentement sont grands, alors je vous envoie ce montant d'avance. » Voyez? Donc, c'est un aperçu de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, quand Paul dit « il n'y a maintenant aucune condamnation », ben c'est comme il dit « déjà en partant ». D'avance, vous pouvez savoir que vos péchés sont pardonnés, que vous avez la vie éternelle, que le ciel vous attend et que, oui, il y a une bataille, oui, il y a un combat, oui, tout n'est pas gagné encore, oui, tout n'est pas dans la poche, comme on pourrait dire. Il y a encore beaucoup de choses qui s'en viennent, il y a des difficultés que vous allez vivre, il y a toutes sortes de situations qui vont se présenter à vous, mais ne perdez pas courage parce que vous partez avec cette assurance qu'il n'y a aucune condamnation qui s'attend sur vous. Même John Piper dit ceci, les deux connotations que je viens de vous dire, en ce qui concerne enfin et d'avance, alors ces deux connotations-là, qui sont dans Romains 8, sont présentes. Et là, il dit, regardez le verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Alors ça, c'est une... Enfin, aucune condamnation. Donc, Jésus a remplacé le régime ancien de la loi par le régime nouveau de l'Esprit. Et grâce à lui, il n'y a enfin aucune condamnation. Jésus a tout fait pour encaisser et satisfaire pleinement la colère et la justice de Dieu. Et ça, c'est réconfortant de voir comment Dieu veut nous rencontrer à travers ça. Et la deuxième connotation, c'est que déjà, aucune condamnation, donc le verdict qui, au jugement dernier, va être donné, eh bien, a déjà été rendu en l'an 33 de notre ère, non coupable. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne vient à Jésus et le reçoit comme sauveur personnel, ben déjà là, ce verdict-là de non-culpabilité est déjà prononcé d'avance. Et donc, au jour du jugement, il n'y aura pas de condamnation. C'est impossible qu'un enfant de Dieu, que quelqu'un qui est en Christ, justement, puisse être reconnu coupable. Alors oui, déjà, aucune condamnation. Et ça, c'est le cœur du christianisme, c'est le don gratuit de Dieu. Que veut dire Paul maintenant par ceux qui sont en Christ? Alors, premièrement, tout le monde ne peut pas dire ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation contre moi. Donc ça, déjà là, ça fait clairement une distinction. C'est pas tout le monde qui peut dire, parce que, tu sais, souvent on entend quand une personne décède, puis là, les gens disent, ah, il est dans une meilleure place, ah, il est sûrement bien où ce qu'il est, tout ça. Comme si, tout à coup, on prenait pour acquis que les gens qui ont vécu leur vie sans Dieu, sans aucun intérêt de Dieu, sans aucune référence à Dieu, vivant leur vie comme ils le voulaient, en faisant les choix qu'ils voulaient et tout ça, puis leur liberté pleinement et ainsi de suite. Et là, tout à coup, oups, ils sont au ciel. Mais là, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Non, parce qu'on part tous avec la condamnation. On est tous sous la colère de Dieu. Mais c'est seulement en Jésus que là, tout à coup, on est sorti de cette colère-là. Et donc, ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas donner un tel verdict. Deuxièmement, ce que ça veut dire, c'est que tout ce que Christ a accompli par sa venue a été crédité ou est crédité à la minute même au compte de tous ceux qui sont en lui. Alors, tout ce que Christ a fait, et là, c'est un peu ça que Paul essaie de montrer avec le chapitre 6, entre autres, et là, il donne l'illustration du baptême. Autrement dit, on est mort avec lui, on a été enseveli avec lui, je voudrais dire, on est mort sur la croix avec lui, on a été enseveli avec lui, et là, il parle même qu'on est ressuscité avec lui. Alors là, notre identification à Christ est telle que tout ce que Jésus a accompli, parce que lui, il avait l'affaire, lui était parfait, et lui, il a accompli la volonté de Dieu, le plan de Dieu parfaitement. Et là, parce qu'il est mort sur la croix, bien là, c'est comme si au moment où on entre en union avec lui, et là, on entre en union avec lui de quelle manière? On entre en union avec lui lorsque tout à coup, par une intervention de Dieu, en ayant entendu parler de l'Évangile, naturellement, de ce que Jésus a fait à la croix, et là, tout à coup, c'est comme si notre cœur s'ouvre et qu'on dit, oui, je crois que quand Jésus est allé à la croix, puis qu'il est mort sur la croix, lui qui était sans péché, lui qui était le Fils de Dieu, égal avec Dieu, de toute éternité Dieu, et quand il est mort sur la croix, il a pris mes péchés sur lui. Puis là, il est mort à ma place. Je le méritais pas. Mais il l'a fait. Et là, il m'invite maintenant à croire que ce qu'il a fait, c'était pour moi. Et c'était suffisant pour que tous mes péchés soient pardonnés et que je puisse aller avec Dieu pour l'éternité. Et que jamais, jamais je serai condamné. C'est impossible parce qu'il a pris tous mes péchés, passés, présents, futurs, n'importe lesquels, les plus laids, les plus terribles, il les a tous pris sur lui. Et le fait que lui a accompli parfaitement la volonté de Dieu et qu'il est mort pour moi à ma place, puis que là maintenant je me tourne vers lui et je lui demande de venir dans ma vie, de prendre ma vie, et moi je veux le suivre, et j'accepte ce qu'il a fait pour moi à la croix, bien là le miracle se passe à ce moment-là. L'union avec Christ se passe par l'intervention du Saint-Esprit qui là m'amène à recevoir tout ce que Christ a accompli, et ça devient mien. Sa justice devient mienne. Son sacrifice devient mien. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, cette idée de nouvelle vie maintenant, je suis à lui et lui est à moi. Et ce qu'il a, c'est aussi à moi. Et même c'est pour ça qu'il dit qu'on est co-héritier avec Christ. Héritier de Dieu et co-héritier avec Dieu. C'est énorme ce que Dieu nous offre en son Fils Jésus. Et ça, moi, je me rappelle que quand j'ai pris cette décision-là, comme je vous dis, en 1976, dans ma petite chambre où je demeurais, et que là, j'ai été invité à un peu comme je viens de faire de ce que je vous ai expliqué, puis que là, j'ai été invité à prendre une décision et là, à prier. Puis on était deux, avec les deux personnes qui nous expliquaient ce que je viens de vous partager. Puis là, c'était, veux-tu demander à Dieu de venir dans ta vie et de le recevoir comme ton sauveur personnel? Et là, l'autre qui était avec moi, lui, il a dit oui. Puis moi, j'étais à côté, puis il a dit oui. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est vrai. Et là, c'est parce qu'en même temps, c'est comme, là, je savais que ma vie allait changer. Je savais que là, ça voulait dire que je renonçais à ma vie personnelle, 18 ans, jeune homme qui allait vivre, découvrir le monde et avoir plein de fun et tatitatata. Là, tout à coup, c'était comme, mais là, c'est Jésus ou c'est moi? Mais là, si je choisis pas Jésus et que je fais face à Dieu, je vais avoir des comptes à rendre. Je vais être coupable. Et là, il y a eu cette lutte. Je sais pas combien de temps que ça a duré. Ça a paru long pour moi. Mais à un moment donné, j'ai dit, oui, je vais l'accepter moi aussi. Et là, on s'est courbé. Une simple prière. Et là, je l'ai fait. Puis je l'ai fait avec mon cœur. Je l'ai fait du mieux que je pouvais. Mais en acceptant vraiment, là, le Seigneur comme mon sauveur, lui confessant mes péchés, lui disant, Seigneur, t'es mort sur la croix à ma place, je te reçois comme mon sauveur, pardonne mes péchés, je te demande pardon, puis maintenant je veux vivre pour toi. Et là, je me rappelle, comme si c'était hier, la conviction que j'avais dans mon cœur, que j'avais la paix avec Dieu. Que là, j'étais son enfant, puis que là, j'allais aller au ciel, que j'avais la vie éternelle. Et savez-vous, ça a été quoi ma première réaction? Mais par après, là, pas tout de suite, là. Mais là, ça a été d'écrire à ma famille. Puis là, j'étais sûr que tout le monde allait accepter Jésus. Là, j'avais tellement hâte de revenir à Shawinigan, puis là, d'aller voir mes chums, puis d'aller voir ma famille, puis là, de leur dire, hey, c'est merveilleux, Jésus, il est le sauveur, il veut être votre sauveur, il est mort sur la croix, vous n'aurez pas à faire face à l'éternité sans lui, vous n'irez pas en enfer, parce que Jésus, il est mort sur la croix à votre place, il n'y a aucune condamnation, maintenant, c'est comme c'est la vie éternelle, c'est le pardon de vos péchés. Et là, j'étais tellement heureux de... Et vous savez... Pour vous donner un peu à quoi ça pouvait ressembler ou à quoi ça devrait ressembler, ce sentiment de savoir que si j'ai Jésus, je n'ai aucune condamnation qui pèse sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire, à part le fait que je n'irai pas en enfer? Parce que c'est important, là, quand même, de dire je ne serai pas séparé de Dieu pour l'éternité, là, je n'irai pas dans un lieu de souffrance et de regret pour toute l'éternité, c'est énorme, là, c'est gros, mais là, c'était comme, wow, comment ça fait que j'ai pas compris ça avant, comment ça fait que j'ai passé à côté de ça? Mais, écoute, ce matin, on parlait, mon épouse et moi, puis là, elle me partageait quelque chose que, pendant la nuit, quand elle s'est réveillée, puis là, elle me partageait un peu qu'est-ce qu'elle a... Puis là, pendant qu'elle me partageait ça, là, j'ai eu une image qui est venue dans ma tête, quand j'avais peut-être 8, 9, 10 ans, là, dans ce coin-là. Là, ça me faisait penser à ça, qu'est-ce qu'elle me disait. Parce que là, elle me partageait qu'est-ce que ça voulait dire pour elle, là, de connaître Dieu, connaître Jésus, qu'est-ce que ça fait, là, à son âme, puis là, en tout cas, ça m'a partagé des choses que là, je vous partagerai pas nécessairement ça, mais ce que je peux vous partager, c'est ce que moi, l'image qui m'est venue. C'est ça de plus avoir de condamnation qui pèse sur nous. Wow, tu sais, c'est ça le cœur de l'Évangile. C'est ça le cœur du christianisme. Faut pas passer à côté de ça. Et savez-vous, c'était quoi? À l'âge de 9, 10 ans, je me vois encore comme si c'était hier. Je suis dans ma chambre. Moi, je suis 9e de 10 enfants. OK? Grosse famille. 12 en tout avec mes parents. Mon père est un travaillant, mais pas riche pantoute, mais un gros travaillant. c'est jamais gâté, qu'on pourrait dire aujourd'hui, comme on parle là, par rapport à lui, mais il a pris sa responsabilité d'être là pour nous dans le sens financier, nourriture, logement, ces choses-là. Dans ce temps-là, c'était ça, là. Être un père, un bon père, c'était de pourvoir aux besoins de tes enfants. Mais moi, en tant que neuvième enfant, c'est comme si l'image que je pourrais vous donner, c'est comme si j'existe, mais je suis pas là. Je suis pas important. C'est-à-dire, moi, je suis pas une priorité, là. Je suis neuvième. Tu sais, il y en a bien d'autres en avant de moi, là. Puis quand j'ai cet âge-là, 8, 9 ans, 10 ans, là, et on est pas mal encore tout le monde à la maison, là, tu sais. Fait que, il y en a du monde, là. Puis on est quatre par chambre, en tout cas pour les gars, là. Mais là, l'image que j'ai, c'est celle-ci. C'est que là, tout à coup, il est vers, mettons, 8, 9 heures le soir. Moi, je suis couché, normalement, à cette heure-là. Mais là, ça bouge dans la cuisine, là, tu sais. Puis là, la plupart sont debout, la plupart sont là. Moi, je suis plus jeune, puis là, ma sœur, on est couché. Là, j'entends mon nom. Benoît. Benoît. Viens. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Là, déjà là, de pouvoir me lever à 9 heures le soir, 9h30, tu sais, c'était comme wow! Et là, savez-vous c'est quoi qu'il y a? Il y a une pizza large sur la table. Une belle grosse pizza large. Puis là, je suis invité à en avoir un petit morceau. Et là, le sentiment que j'ai, c'est que tout à coup, je suis accepté dans ma famille. Je fais partie de ma famille. Je suis considéré dans ma famille. Et là, c'est pour vous dire, un peu anodin, là, mais c'est cette image-là de, c'est ça que Dieu fait pour nous, mais pas occasionnellement, mais tout le temps. On est les bienvenus dans la famille de Dieu. On fait partie de sa famille. On est invité à célébrer ce qu'il y a de meilleur avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'on est son enfant et qu'il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur nous. En conclusion, la première certitude pour ceux qui sont en Christ est qu'il n'y a enfin et dès maintenant aucune condamnation. On peut participer au festin, on peut participer à la relation avec Dieu, on est invité à être avec lui dans sa présence constamment et avoir une relation qui est significative, qui est proche, qui est saine, qui est plein d'amour, plein de tendresse, parce qu'on est chéri pour lui, on est précieux à ses yeux. Il a payé de sa vie pour qu'on puisse faire partie de la sienne et de sa famille. Et la deuxième certitude, c'est que pour ceux qui sont en Christ, est que Dieu est toujours de leur côté et jamais contre eux. Impossible. Dieu, pour lui, on est la prunelle de ses yeux. Et s'il a donné, c'est un peu ce que Paul dit dans Romains. Imaginez-vous quand on était encore des pécheurs, c'est-à-dire encore ennemis de Dieu, encore en conflit contre Dieu, le poing peut-être levé dans les airs contre Dieu, puis avec de l'amertume dans notre cœur, avec toutes sortes de choses qu'on veut rien savoir de Dieu, on vit notre vie comme si Dieu n'existait pas, on l'offense de toutes sortes de manières, mais il dit, quand on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Imaginez-vous maintenant qu'on est réconcilié avec lui. S'il nous a aimés autant, Dieu a tant aimé le monde que quand que le monde était, il ne voulait rien savoir de lui, il l'a aimé et il a donné son Fils pour ces gens-là, pour vous et moi. Imaginez-vous maintenant qu'on est réconcilié avec lui. Et vous allez voir dans la suite de Romains 8, Paul va même parler, mais qui va nous séparer de l'amour de Christ? Et là, il nomme une série d'affaires. Il n'y a rien qui peut nous séparer parce que Dieu est de notre côté et il ne sera jamais contre nous. Même quand on est désobéissant, Dieu n'est pas contre nous. Non, il dit comme un père qui aime son enfant, Oui, il peut le corriger. Oui, il peut le ramener. Oui, il peut être convaincant. Hein? Mais jamais il sera contre nous. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin, puis on veut te rendre grâce, Seigneur, parce que ce que tu nous présentes dans ta parole, cette vérité fondamentale qu'il n'y a aucune condamnation, c'est une certitude, Seigneur, que tu nous présentes, et que tu es toujours de notre côté, tu es toujours avec nous, on peut toujours compter sur toi. Seigneur, c'est une vérité tellement profonde et tellement importante, et que là, on fait partie maintenant de l'objet de ton amour d'une manière encore plus exceptionnelle, encore plus grande que même avant, quand tu as tant aimé le monde ou tu as donné ton Fils. Mais maintenant, Seigneur, en tant que tes enfants, on peut être vraiment l'objet de ton amour d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et surtout qu'on peut y goûter, surtout qu'on peut l'expérimenter dans des situations, dans des moments. Et c'est ça ton désir, Seigneur, qu'on puisse vraiment goûter au fait qu'on fait partie de ta famille, qu'on est accepté, qu'on a notre place, qu'on est chéri, qu'on est choyé, que tu veux même, Seigneur, porter une attention particulière à ce qu'on vit, à ce qu'on est, à ce par quoi on passe au travers. Parce que, Seigneur, c'est ça le désir de ton cœur. Tu as mis tout ce qu'il fallait, tu as mis le paquet, Seigneur, pour qu'on puisse avoir une relation avec toi. Et c'est ça l'essentiel du christianisme, c'est d'être en paix avec toi, Seigneur, parce que tu nous as donné la vie éternelle, le pardon de nos péchés en ton Fils Jésus. Et Seigneur, on veut te demander que tu puisses nous aider à célébrer cette vérité-là, à en profiter, Seigneur, jour après jour, à te laisser, Seigneur, te manifester à nous, à ce que nos cœurs puissent se réchauffer, se rapprocher de toi. Tel est notre désir, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un ce matin, Seigneur Dieu, qui ne connaît pas cette relation-là avec toi, ne connaît pas cette proximité de cœur avec toi, Seigneur, parce qu'il n'est pas passé encore, il n'a pas fait encore ce pas, il t'a pas invoqué, il n'a pas demandé à ce que tu viennes vers lui, à ce que tu pardonnes ses péchés. Lui ne s'est pas tourné vers toi en te demandant, Seigneur Jésus, sur la croix, d'être son sauveur personnel, en croyant que ce que tu as fait, justement, c'était pour lui aussi ou pour elle. Seigneur, peux-tu, par ton esprit, ce matin, toucher son cœur? Et le convaincre ou la convaincre, Seigneur, de ton amour qui est grand, et que peu importe ce qu'elle aurait pu faire ou commettre ou de terrible ou de disgracieux ou d'horrible, qui est pas pardonnable, Seigneur, à ses yeux, du moins à elle ou à lui, mais Seigneur, de lui montrer que ton amour dépasse tout ça et t'as fait tout ce qui était nécessaire. Et il n'y avait pas de plus grand sacrifice qui pouvait te faire que celle de ton propre Fils Jésus, et que grâce à lui, ses péchés peuvent être pardonnés, et aucune condamnation ne pèsera dorénavant sur lui ou sur elle. Seigneur, permets à ce que ce miracle se fasse. On comprend, Seigneur, que c'est l'œuvre de ton esprit, et c'est pour ça qu'on se tourne vers toi ce matin, et on te demande, Seigneur, ton intervention. Merci encore, Seigneur, pour tout. Merci de nous rappeler cette vérité de base, fondamentale, qu'on peut malheureusement oublier parfois, mais que c'est l'essentiel de qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien. C'est d'être réconcilié avec toi, ô Dieu, de n'avoir aucune condamnation qui pèse sur nous, parce que tu nous as unis à ton Fils Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen.